Adoption des points 20.06 à 20.08, 20.06, appuyé de Laurent Blanchard, oui. 20.06, accorder un contrat à DocuDépôt pour le service d'entreposage de documents semi-actifs. 20.07, accorder un contrat à Socomec pour l'installation d'un groupe motopompe à l'usine de production d'eau potable. Et 20.08, approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société de développement économique Ville-Marie.
Adopté.
Je propose donc la réunion et l'adoption des points 42.01 à 42.02, appuyé de Laurent Blanchard. 42.01, l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 8 millions de $ pour financer des travaux de démolition et de reconstruction à la caserne dans l'arrondissement Outremont. 42.02, règlement du Conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal.
Adopté.
51.01 en nomination. Donc, Monsieur le maire Laurent Blanchard propose une nomination au Conseil de la communauté métropolitaine de Montréal et une recommandation au Conseil de la CMM quant à une désignation au comité exécutif de la CMM.
Monsieur le maire.
Alors, il me fait plaisir et sans surprise de proposer la nomination de Monsieur Claude Dauphin. Monsieur Dauphin, dont on sait qu'il siège depuis, je pense, le fin mai, début juin, fin mai. Il siège comme président de la Fédération canadienne des municipalités et compte tenu que les dossiers qui sont étudiés à la communauté métropolitaine de Montréal sont des dossiers qui sont très concurrents dans le bon sens du terme, très complémentaires, très convergents, tiens, avec les dossiers de la Fédération canadienne des municipalités, c'est pour ça qu'il me semblait un naturel, comme on dit en langage sportif, de nommer M. Dauphin à la fois comme membre du comité du conseil d'administration et du comité exécutif de la Fédération canadienne des municipalités. Je suis certain que son apport sera précieux autant à Montréal que pour l'ensemble des villes canadiennes. Alors, merci M. Dauphin. Alors, on m'indique que la proposition est faite par le maire, appuyée par Mme Caroline Bourgeois.
Adopté. Maintenant, l'agglomération donc est adoptée. On revient au conseil municipal. Madame
au chapitre 20, M. Bissonnette, oui, où nous sommes rendus. Donc, je propose la réunion des points 20.01 à 20.05. Appuyer, oui, de Laurent Blanchard. 20.01, accorder un contrat aux excavations Gilbert Théoret pour des travaux de reconstruction dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 20.02, accorder un contrat à l'épavage d'amour pour la reconstruction d'aqueducs et d'égouts unitaires dans l'arrondissement de La Salle. 20.03, approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du MTQ un terrain à l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. 20.04, prendre connaissance du rapport de la Commission sur l'examen des contrats concernant des réalisations de travaux de réhabilitation de conduites d'égouts. 20.05, accorder un contrat à Routec Construction pour une reconstruction de trottoirs dans l'arrondissement de Mercier-Schlaga-Maisonneuve.
Monsieur Chétilian.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce matin, je vais profiter des points qui sont inscrits à l'ordre du jour pour adresser une question au maire élu, maire par intérim, concernant sa sortie médiatique, justement, où on pouvait voir clairement sur TVA Nouvelles tantôt qu'il y avait beaucoup de dossiers dans le pipeline pour les travaux d'infrastructure à Montréal. La question est posée de ma part, justement, parce que le maire par intérim précédent, M. Michael Applebaum, avait fait un peu une ligne politique de sa gouverne de passer toujours par l'accréditation de l'AMF pour l'octroi de contrats d'infrastructures qui se faisaient ici au service corporatif de la Ville. On sait tous, et dans les arrondissements, on a eu à prendre des décisions difficiles, qui est la clause 2. Et cette clause 2 nous permet d'aller de l'avant avec le processus d'octroi de contrat, tout en préservant la possibilité d'arrêter, advenant le cas où l'entreprise auquel le contrat est donné se retrouve sur le RENA, donc la liste des entreprises qui ne peuvent pas traiter avec l'État québécois. Et même là, si l'entreprise se trouve sur cette liste, il y a une clause dans la loi qui permet de demander une autorisation spéciale du Conseil du Trésor qui permet la poursuite des travaux pour des cas exceptionnels. ou on peut arrêter les travaux et après reprendre avec une entreprise, peut-être à travers la caution, etc. Donc, en ce qui me concerne, c'est une question qui est posée dans la salle du conseil, mais c'est une question qui va ultimement alimenter ma réflexion en tant qu'élu dans notre arrondissement, parce qu'on est confronté actuellement à une situation qui est une situation assez complexe, et on a déjà eu une discussion autour de cette situation. Bref, en tant que groupe d'élus, on a opté pour la clause 2, donc on doit prendre une décision prochainement. Et on se pose les questions suivantes. Donc, on se pose si notre geste, c'est un geste qui est légal. Je pense qu'on a répondu à cette question. C'est un geste qui est légal, qui est encadré par la nouvelle loi 1. On s'est posé la question si c'est un geste qui est éthique, parce qu'on sait tous que, avant la mise en place de la loi 1, il y avait des préoccupations éthiques à accorder des contrats à des entreprises auxquels on soupçonnait de malversation, et ces soupçons ont été, je dirais, concrétisés avec les révélations qu'on a entendues à la commission Charbonneau. Donc, la dernière question auquel je dois avoir une réponse, c'est la question qui est de nature politique. Bref, est-ce que le maire, par intérim actuel, va faire lui aussi partie de sa politique de ne pas passer par la clause 2 pour les contrats de la Ville-Centre? Ça, c'est ma question. Et pour les arrondissements qui le feront avec la clause 2, quel conseil qu'il entend donner? Est-ce qu'il nous encourage à poursuivre dans cette voie? Parce qu'on sait tous qu'au Québec, on est un pays nordique et on n'a pas beaucoup de temps à faire des travaux. Et la fenêtre d'opportunité pour faire les travaux d'infrastructure est extrêmement restreinte. Donc, devant nous, il reste quelques mois. Donc, j'aimerais entendre le maire sur cette question. Merci beaucoup, Madame la Présidente.
Merci, M. Chitilian. M. Perez.
Oui, merci, Madame la Présidente. C'était tout simplement pour présenter le rapport de la commission d'examen de contrat pour le 20.04. Donc, évidemment, ce contrat a été présenté à la commission puisqu'il s'agit d'un contrat de plus de 10 millions de dollars. Il présente également un écart de plus de 20% entre l'estimation interne et la soumission de l'adjudicateur. Il a fait l'objet d'une analyse lors d'une séance de travail le 26 juin dernier. Ce contrat concerne le même appel d'offres en lien avec un autre contrat adopté au Conseil du mois de juin. Il concerne la réhabilitation des conduites par chemisage, donc un autre territoire, le côté est, tandis que celui-ci au mois de juin était pour le côté ouest. Compte tenu de l'envergure des travaux de réhabilitation à réaliser, le service de l'eau a divisé ce projet en deux. Les responsables du dossier ont rapporté les différents avantages de cette technique de réhabilitation sans trancher. Ils ont, entre autres, fait valoir la plus grande rapidité de réalisation, la réduction des perturbations des infrastructures environnantes et le maintien de la circulation, ainsi qu'une remise en état des lieux les plus rapides. L'appel d'offres a été lancé le 15 janvier. Il est demeuré sur les marchés jusqu'au 13 mars 2013. Au cours de cette période, 5 addendas, dont 4 qui concernent le secteur S, ont été émis afin d'apporter des précisions mineures au devis. 7 compagnies se sont procurées le cahier de charge. De celles-ci, 3 ont soumissionné une offre tout conforme. La soumission de l'adjudicateur présente un écart favorable à la ville de 28,78% par rapport à l'estimation interne. Les responsables du dossier attribuent cet écart au contexte du marché particulièrement favorable, à l'amélioration de la connaissance des territoires, ainsi que la récurrence annuelle. Le contrat comprend des contingences d'un montant correspondant à 6% du coût des travaux. À noter que l'adjudicateur détient son attestation de l'AMF depuis le 30 mai 2013. Les élus ont également reconnu la qualité de la présentation effectuée par les responsables du dossier, ainsi que les réponses obtenues à l'égard du processus d'appel d'offres. Merci.
Merci, M. Perez. Nous avons maintenant M. Primo.
Merci, Madame la Présidente. Alors, je profite de l'occasion, c'est un contrat, je veux dire, je suis toujours intervenu concernant le coût des estimations, puis les écarts, puis la façon des calculs de deux méthodes, la façon que c'est présenté dans nos dossiers, et que à chaque fois qu'on se réunit en commission d'examen des contrats, j'interviens toujours à le fait que je montre toujours mon insatisfaction. Je vais vous citer un exemple des chiffres. On aurait un plus bas soumissionnaire, 1 million. Deuxième plus bas soumissionnaire, 1,3 million. et l'estimation 1,5 million. Alors, le deuxième soumissionnaire, il y a 300 000 de différence avec le plus bas. Alors, 300 000, on le divise sur 1 million. Alors, c'est 30 % d'écart. Il était 30 % plus cher que le plus bas soumissionnaire. Mais quand on arrive avec des estimations d'un million et demi sur le plus bas soumissionnaire d'un million, il y a un écart de 500 000 $. Alors, c'est 50 % plus cher parce qu'on devrait diviser sur le plus bas soumissionnaire. Mais ça nous est toujours présenté le 500 000 $ divisé par l'estimation. Alors, c'est 500 000 divisé par 1,5 million. Alors, c'est 33 %. Alors, moi, je ne peux pas accepter ça. Dans ce genre de dossier-là qui nous a été présenté, là, c'était plus de 5 millions la différence entre l'estimation et le plus bas soumissionnaire. Alors, c'était 28 % que le service à direction nous présente. Bien, moi, je l'ai fait le calcul, là, parce que la différence, c'est 40,4 %. Alors, pourquoi toujours nous présenter ça? Je ne peux pas comprendre que dans un dossier, c'est pour ça que je vais en faire part au conseil, qu'on ait deux façons, deux calculs différents, qu'on nous présente un dossier. Moi, je pense que c'est inacceptable, puis il faut être juste. Et je souligne aussi que je ne peux comprendre que le service, dans un cas ici, la direction, sachant les coûts au mètre, au diamètre ou le chemisage qu'on a à faire dans les égouts, on doit avoir une idée des prix, des coûts, d'arriver avec des écarts aussi grands. Alors, c'était mon intervention. Merci.
Merci. Monsieur Perez, réplique.
Merci, c'est pour les commentaires à titre personnel sur le 20.04. Tantôt, évidemment, j'ai fait la présentation du rapport de la commission. Ce dossier, quand il a été présenté au mois de le 26 juin, il a été présenté suite au dossier qui a été présenté auparavant. Ça faisait partie d'un appel d'offres. Un appel d'offres pour les deux secteurs, l'Ouest et l'Est. Et on a vu la commission d'examen de contrat, on a vu le dossier décisionnel concernant le côté Ouest, fin mai, début juin. Il est passé au mois de juin. Et on a vu celui-ci seulement le 26 juin. La raison pour laquelle il n'a pas été présenté au même temps, c'était tout simplement parce que l'autorisation de l'AMF pour l'une des autres compagnies n'a pas été donnée en même temps. En parenthèse, Madame la Présidente, combien de temps il me reste?
Cumulatif. 7 minutes.
Merci bien. Je ne vais pas avoir besoin de 7 minutes. Une fois qu'on a saisi ça, une fois que j'ai vu ça lors du deuxième dossier, j'ai posé des questions. Je suis allé revoir le dossier concernant le côté ouest. Et en analysant le côté ouest ainsi que le côté l'est, j'ai eu des questions, j'ai eu des constatations qui m'ont perturbé. C'est quelque chose que j'ai communiqué lors de la commission d'examen des contrats. Nonobstant le fait qu'on a reconnu la conformité, il y avait un questionnement sérieux et donc on a en fait une recommandation spécifique à cet égard. Je m'explique. Lorsqu'on constate les joueurs du marché, il y a deux ou trois joueurs de marché. Et au fil des années, au fil des trois dernières années, on peut voir un certain pattern, excusez-moi pour l'anglicisme. En 2011, pour le côté Est et le côté Ouest, c'était le même soumissionnaire, Institut du Forme, pour le côté Est et Ouest. En 2012, c'était Clearwater, pour le côté Est et le côté Ouest. En 2013, un côté c'était Clearwater, l'autre côté c'était Institut du Forme. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de revoir et de dire, est-ce qu'il y a de la collusion ici? Je posais la question. Les services, ils ne pouvaient pas avoir la réponse, on ne peut pas savoir. Mais lorsqu'on analyse les montants au mètre linéaire, par exemple, pour le 2013, d'un côté, Clearwater, Institut Forme, ils font ça à 850 $ le mètre linéaire. Et pour le côté Est, ils l'ont fait à 807 $ le mètre linéaire. Pourquoi? Je ne sais pas. On ne peut pas le savoir sans leur poser la question directement. Mais ça pose des questions fondamentales. Est-ce qu'il y a un potentiel de ça? Alors, on nous a dit, c'est en faveur de la ville. Il y a eu l'autorisation de l'AMF. C'est évidemment, on a approuvé le côté Est, on devrait approuver le côté Est, il n'y a pas de raison. Moi, j'étais très mal à l'aise à cela. Donc, j'ai fait une recommandation, j'ai demandé à ce que le contrôleur général, il regarde sur ce dossier. Il regarde qu'il fasse certaines enquêtes à cet égard-là. C'est reflété dans le rapport de la commission, pour voir exactement. Alors, je souhaitais, à titre personnel, de soulever ça en conseil. La commission d'examen de contrat, effectivement, c'est un second regard. On parle d'une démission, c'est l'imputabilité. Et puis, je pensais que c'était de mon devoir de soulever ces précisions nonobstant que la commission ne pouvait pas déclarer qu'elle ne soit pas conforme pour des raisons techniques évidentes. Je vous remercie.
Merci, M. Perez. On termine cet item ou on va manger? Donc, on se revoit à 14 heures. On recommence avec M. Tassé. On va s'asseoir. Asseyez-vous. Donc, c'était le tour de M. Tassé. OK. Bon. Droit de réplique.
Alors, Madame la vice-présidente, sans surprise en réplique, sur 20.004, oui, c'est ça. Sur les commentaires de mon collègue Pérez de la commission d'examen des contrats, j'ai bien pris note du rapport qui avait été remis par la commission d'examen des contrats et je note qu'ils ont félicité le service de l'eau pour la clarté de la présentation, ce qui était le point positif. Par contre, par rapport à ce que M. Pérez a dit sur la question de la concurrence, je comprends que les commissaires, comme à leur bonne habitude, se sont montrés scrupuleux dans le bon sens du terme, pardon, sinon même chirurgicaux, dans certains commentaires. Je note que les recommandations sont intéressantes dans la mesure où, effectivement, notre souhait à tous, et c'est le souhait du service aussi, c'est de conserver le maximum, de préserver ou même d'améliorer la concurrence. Mais quand on regarde l'objet du contrat, qui est la réalisation de travaux de réhabilitation de conduite d'égout par chemisage, convenons que c'est un domaine assez spécialisé, un domaine qui nécessite beaucoup de machinerie spécialisée. Et en ce sens-là, déjà, le contrat a été scindé cette année pour qu'il y ait un adjudicataire différent pour le secteur ouest et le secteur est. Est-ce qu'on pourrait scinder les contrats davantage? Est-ce que ça permettrait à plus d'entreprises d'acquérir la machinerie nécessaire? J'ai bien pris note, d'une part, du fait que la commission avait constaté à l'unanimité la conformité du processus, mais en même temps, il y a une recommandation précise qui est faite au service du contrôleur général, comme le rappelait M. Pérez, de revoir la stratégie d'approche des marchés. Moi, j'aurais parlé plutôt de raffiner la stratégie d'approche des marchés, mais le commentaire leur appartient. Et en ce sens-là, effectivement, c'est un contrat qui va faire l'année et j'ose espérer que le service de l'eau et le contrôleur général vont faire en sorte de voir si le marché peut être ouvert en tenant compte des contraintes physiques que peut représenter un marché aussi spécialisé pour la ville de Montréal. Quant aux commentaires de mon collègue Primo sur la façon de calculer les écarts, on sait que depuis le début de la commission d'examen des contrats, c'est un sujet qui est cher à mon collègue. On parle même à la commission d'examen des contrats de la clause primo. Et la clause primo, c'est la façon de calculer les écarts. Si jamais c'est adopté par le service, c'est certain que ça va porter ce nom-là, la clause primo. Et on nous a expliqué à différentes reprises, du moins quand j'étais président de la commission, mais on nous a expliqué à différentes reprises le pourquoi de cette méthode de calcul des écarts. Qui donne un écart différent selon que l'écart est favorable ou défavorable à la ville. Les explications des services, à ce jour, ont satisfait une majorité de commissaires et je ne sache pas qu'il y ait eu une recommandation officielle à cet effet dans les deux rapports annuels de la Commission d'examen des contrats. Mais effectivement, la façon dont mon collègue Primo calcule les choses, ça mérite d'être souligné parce qu'effectivement, ça donne une... On m'a censuré. Voilà, c'est revenu. Ça donne une dimension différente des écarts, mais il reste quand même que, quel que soit le calcul fait par les services ou le calcul primo, ce sont toujours des écarts qui sont significatifs. Effectivement, 44 % d'écart versus 28, c'est plus important, mais je pense que si la chose se perpétue et si les membres de la commission d'examen des contrats sont mal à l'aise, je pense que ça pourra faire l'objet d'une recommandation formelle de la commission dans son prochain rapport annuel. Alors, c'était ma réplique à 20.04. Et maintenant, en ce qui concerne la question, disons, plus générale que m'a demandé M. Chitiliane, je ne sais pas si c'est en réplique ou quoi, là, mais c'est par rapport aux contrats qui sont accordés de façon générale. Par rapport à mon prédécesseur, on a parlé de transition tranquille. Moi, ce que je veux, j'ai deux principes. Pardon. Le premier principe, c'est que la ville fonctionne. Et le second, c'est que la ville fonctionne dans l'intégrité et la transparence. Alors, de ce fait-là, je pense que depuis que j'ai été nommé à la fois comme président du comité exécutif et ensuite à la commission d'examen des contrats, je me suis toujours... comme maire de Montréal, tiens. Donc, à la fois la commission d'examen des contrats, comme président du comité exécutif et comme maire de Montréal, l'intégrité et la transparence, j'ai toujours essayé d'en faire une valeur ajoutée et je crois qu'à ce jour, je n'ai pas failli. Il est évident qu'en raison de la situation politique que nous vivions en décembre 2012, quand nous avions fait le choix de nous imposer un carcan supplémentaire en soumettant les contrats de plus de 100 000 $ à la loi 1. C'est un choix délibéré que nous avions fait, parce qu'à l'époque, toutes sortes de soupçons planaient sur l'administration montréalaise, qu'ils soient justifiés ou non. Et en ce sens-là, je n'ai pas l'intention de déroger par rapport à la politique que nous avons adoptée depuis décembre et qui fait en sorte que, oui, j'ai fait une conférence de presse avant le conseil de ce matin pour dire que le processus d'octroi des contrats était retardé. Mais les contrats qui sont accordés, on a une garantie à peu près certaine qui sont accordés dans l'intégrité et la transparence. Et ça, je pense que c'est une valeur chère aux Montréalais, c'est une valeur ajoutée aux travaux qu'on fait. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas l'intention d'en dévier. Cependant, je vous rappelle que le mois dernier, on a aussi procédé, dans cette salle, à un amendement à l'article 2. Si je me souviens bien, c'était l'article 2.4.1. Et cet article-là faisait en sorte qu'on ajustait notre politique de gestion contractuelle à ce que fait le gouvernement du Québec, à ce que fait l'Autorité des marchés financiers, pour ne pas aller au-delà de ce que nous permet la loi du gouvernement du Québec. Ça fait en sorte que, bon, on sait qu'une entreprise Dassault, pour ne pas la nommer, a été identifiée comme n'ayant pas reçu son autorisation de l'Autorité des marchés financiers. Cependant, si je ne m'abuse, nous avons reçu une lettre du ministre des Transports ou du sous-ministre des Transports qui nous indiquait que pour la période estivale, il y a des ajustements qui vont être apportés à nos contrats. Et cette lettre-là a été suivie d'une lettre de l'avocat en chef envoyée à toutes les directions d'arrondissement et aussi, je pense, à tous les donneurs d'ouvrages dans les arrondissements. Je ne sais pas si c'est les directeurs de travaux publics ou quoi. Mais une lettre, donc, de l'avocat en chef qui disait « Voici comment la loi 1 va s'appliquer cet été et voici comment notre politique de gestion contractuelle doit s'appliquer en fonction des ajustements estivaux qui sont apportés à la loi 1. » Il y avait la question du délai de 60 jours avant que la Ville puisse mettre fin à un contrat. Il y avait la question que la Ville doit faire elle-même la demande si elle souhaite mettre fin à un contrat plutôt que le contraire, ce qui était le cas de la loi précédente. Mais cette lettre-là qui est disponible dans tous les bureaux d'arrondissement, mes collègues peuvent en prendre connaissance. Donc, en ce qui concerne le mode de fonctionnement d'ici le 3 novembre prochain, j'ai l'intention de poursuivre de la façon dont on le fait jusqu'à maintenant. Nous allons continuer à suivre les décisions de l'Autorité des marchés financiers et on va continuer donc à fonctionner dans l'intégrité, la transparence, et toutes les unités d'affaires, y compris les arrondissements, sont invitées à suivre cette politique-là, donc, que l'avocat en chef a envoyée à tous les responsables d'arrondissement. Merci.
Merci. Donc, les items 20.01 à 20.05 sont adoptés. Avant qu'on procède dans les items, dans les adoptions de règlement, je voulais informer le conseil que j'ai reçu un message concernant le fichier audio de la séance de ce conseil, puis sera disponible sur Internet et on espère avant le mardi prochain. Donc, Madame le leader.
Merci, Madame la Présidente. Donc, avant de proposer les points 30.02 à 30.06, simplement informer le Conseil qu'il y aura des travaux du Conseil d'agglomération à 17 heures. Donc, pour ces raisons, vous comprendrez que nous devrons quitter la salle à 16 heures. Si nous n'avons pas terminé nos travaux, on revient à ce moment-là à 19 heures. Donc, simplement vous informer. Moi, je suis... Écoutez, ne me lancez pas de rush sur le messager. Je vous informe de la situation uniquement. Et étant donné qu'on me dit donc de procéder rapidement au prochain point, du moins pour les annoncer. Je propose donc la réunion des points 30.02 à 30.06 et leur adoption. 30.02 qui est adopter une résolution manifestant un accord entre la Ville en fait concernant un décret dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, sur la rue Sherbrooke-Est de la 81e Avenue. 30.03 qui modifie la dotation de l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. 30.04 approuver le virement budgétaire entre les entités participatives à la convention entre la Ville de Montréal et la Commission sportive Montréal-Concordia. 30.05 mandater le service des affaires juridiques et d'évaluation foncière de la Ville pour l'enregistrement de commerce des Agnes et 30.06, mandaté service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière de la Ville pour procéder à l'enregistrement de code souvenir Montréal.
Madame Duplessis.
Madame la Présidente, brièvement, je vous le dis. C'est sur le 30.02. Vous savez, je me levais toujours en conseil pour critiquer quand on soustrait un terrain dans les éco-territoires. Alors, je suis pas peu fière de vous dire que le 12 juin dernier, je vais déposer le document au greffier, si vous voulez en avoir copie. Au comité exécutif, on a donné un accord de principe pour protéger 150 hectares dans les éco-territoires. Ce travail-là, ensuite, va être envoyé au Conseil du patrimoine pour que dans chaque éco-territoire, le travail qui a été fait par le service des grands parcs soit revu par le Conseil du patrimoine. Et ensuite, pour chaque éco-territoire, il va y avoir une décision du Conseil, donc en bloc pour chaque éco-territoire, les terrains qui ne sont pas d'intérêt écologique vont pouvoir être retirés et les autres vont être définitivement protégés. Donc, celui-ci que vous voyez au 30.02, là, qui retire un terrain ville de la trame verte de l'Est, c'est en principe là, la dernière exception que vous voyez à la pièce comme ça, parce qu'on avait besoin de le passer. Sinon, ça va être chaque éco-territoire qui va repasser avec une recommandation du Conseil du patrimoine en conseil. Alors, je peux déposer le document.
Merci. Madame Rouleau.
Oui, sur le même point, Madame la Présidente, je suis très heureuse de cette décision du comité exécutif. J'ai eu à me lever, moi aussi, fréquemment, pour demander à ce qu'il y ait une planification des retraits des terrains qui particulièrement touchaient à chaque fois la trame verte de l'Est. Et dans ce cas-ci, ce qui est heureux, c'est que ce retrait-là va permettre un développement, somme toute, assez important sur la rue Sherbrooke, dont un développement qui est nécessaire pour assurer les investissements de la rue Sherbrooke, investissements qui nous tiennent à cœur, évidemment. Et dans le cadre de en fait, ça fait l'objet d'un échange de terrain qui va être très bénéfique pour la trame verte de l'Est et particulièrement pour le ruisseau Gros, la protection du ruisseau Gros. Donc, c'est une belle initiative.
Merci, Madame Rouleau. Adopté.
Merci, Madame la Présidente. Donc, je propose la réunion et l'adoption des points 42.01 à 42.05, appuyé de Laurent Blanchard. 42.01. 42.01, l'adoption d'un règlement sur la fermeture d'une ruelle dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. 42.02, l'adoption d'un règlement modifiant le règlement concernant le régime de retraite des employés de la ville d'Outremont. 42.03, un règlement modifiant le règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoir du conseil de ville au conseil d'arrondissement. 42.04, l'adoption d'un règlement sur des subventions aux sociétés de développement commercial. 42.05, l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 12 millions de dollars pour la construction du complexe de soccer au complexe environnemental de Saint-Michel.
Monsieur Benjamin.
Merci, Madame la Présidente. Sur le 42.05, évidemment, c'est un projet que ce projet de construction du complexe de soccer que nous appuyons. Cependant, on constate mois après mois l'augmentation des coûts. Donc, j'aimerais avoir l'information suivante, à savoir cet emprunt-là de 12 millions vient et gonfler le budget de construction de ce complexe à combien? Est-ce qu'on peut avoir une ventilation assez détaillée du coût de construction du complexe intérieur de soccer Saint-Michel?
Madame Sanson.
Merci, Madame la Présidente. Concernant le même point, on se rappellera qu'en 2009, au début de la campagne électorale, l'administration Feu, on pourrait l'appeler comme ça, là, l'administration Tremblay à l'époque, avait annoncé ce terrain de soccer au montant de 32 millions de dollars d'investissement. Je me rappellerai que monsieur, si vous me permettez juste de regarder mes notes, que monsieur Tremblay avait également dit ici, dans ce conseil et aussi aux médias, que le maire avait pourtant assuré qu'en tout, 28,3 millions de dollars seraient injectés dans ce nouveau complexe. Or, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que c'est 12 millions de plus que le 32 millions que nous avons déjà. Avec tout ce qui se passe, je pense que c'est important qu'on puisse ici le dire aujourd'hui, parce que là, les coûts ont semblé exploser. Pas parce qu'on est contre un projet comme celui-là, au contraire, mais je pense qu'on doit être aussi responsable de l'argent qu'on met à l'intérieur. Et mon collègue Benjamin l'a bien dit, est-ce que c'est possible qu'on puisse savoir en détail pourquoi ça coûte aussi cher? Pourquoi du simple projet de 28 millions, on est rendu à 32 millions plus 12 millions de plus? Et ça, c'est sans compter, j'imagine, encore une fois, certains travaux ou certaines augmentations qu'on n'aura pas vues maintenant et qu'on pourra le faire plus tard en frais d'extra. J'aimerais juste m'assurer de la vigilance des conseillers et du conseil aujourd'hui sur le montant d'argent qu'on s'apprête encore une fois à emprunter, donc des travaux qui sont prévus plus tard en 2014. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Parce que là, au début, c'était un projet. Là, ce qu'on lit dans le sommaire, c'est qu'il y a une phase 1, il y a une phase 2. Est-ce qu'on va découvrir une phase 3 prochainement? C'est un puits sans fond, là. Avec tout ce qui se passe avec l'argent public, je vous invite à la prudence. Et j'aimerais bien avoir toutes ces réponses sur comment est dépensé ce 44 millions de dollars pour ce centre de soccer, Madame la Présidente.
Merci, Mme Sanson. Mme Lefebvre.
Oui, super rapidement, là, le 42.03 par rapport au remplacement des entrées de services. Donc, est-ce que ça serait possible de m'envoyer un avis des services sur les impacts potentiels sur la santé? Je sais que ça doit exister, même si c'est potentiellement sur Internet, mais juste valider qu'en date d'aujourd'hui, avec toutes les nouvelles avancées technologiques et barèmes environnementales, que cet avis-là a été mis à jour pour assurer qu'il n'y a aucun danger sur la santé.
Merci, Madame Lefebvre. Monsieur Ménard.
Madame la Présidente, je vais faire une question de règlement rapide, si vous me le permettez, pour déposer l'information concernant la panne, comme je m'y étais engagé ce matin, la panne de service hier à Hydro-Québec. Il y a un certain nombre d'éléments techniques qui sont expliqués. Je vais demander que ça soit distribué à tous les conseillers. Si jamais le conseiller Gadouri ou d'autres personnes estiment avoir besoin d'informations additionnelles, on aura juste à me le faire savoir. Mais j'ai demandé à M. Desrosiers et Mme Arel et tous les 64, les 63 ont besoin d'informations additionnelles. Alors, il me fera plaisir. Mais j'ai demandé à M. Desrosiers de mettre par écrit pour que ça laisse des traces. Donc, je vais demander au greffier d'en faire des copies, que ça soit distribué. Et je pense que ça répond. Il n'y a jamais eu de délestage d'Hydro-Québec, là, mais je pense que ça répond et que ça va être utile aussi pour le maire pour sa rencontre avec Mme Marois demain.
Merci, M. Ménard. M. Blanchard.
Oui, en réponse davantage qu'à réplique à ma collègue Elsie Lefebvre, oui, les données existent, oui, il y a des documentations là-dessus, puis je m'engage à vous les faire suivre.
Monsieur Deschamps, non? Monsieur Deschamps.
Oui, alors sur 42.05, en droit de réplique et en réponse. Alors, juste pour resituer, on est à l'étape du règlement d'emprunt, donc c'est pour effectivement réaliser ce qui a été annoncé. On se rappelle, il n'y a pas de phase 3, là, ça c'est clair. Phase 1 et phase 2, ça va être en masse. On se rappellera que dans l'évolution du dossier, il y a eu une demande qui avait été faite pour regarder les plans et devis de façon intégrée au niveau des architectes et des ingénieurs. Ça avait été refusé par Québec. Ce qui a fait en sorte que ça a allongé les processus et ça a fait en sorte aussi qu'il y a eu un toit en bois. C'est un choix qui avait été fait à l'époque par l'exécutif pour intégrer dans une structure globale. Donc ça, c'est un élément qui a contribué à augmenter les coûts. Un autre élément qui a contribué, c'est la localisation. En fait, c'est au niveau du sol, là, il y a des expertises qui ont dû être faites et qui ont été... On sait qu'au niveau du complexe environnemental Saint-Michel, c'est un sol particulier, si on peut dire. Donc, ce sont des éléments qui ont contribué à augmenter les coûts. Il y a des éléments, et ce n'est pas le seul élément, mais c'est un des éléments, c'est le design aussi qui a été, je pense, qui a joué, mais je pense que nous aurons aussi un bâtiment de très grande qualité à cause de ça. Je pense que toutes les équipes ont fait en sorte d'essayer de diminuer le plus possible les coûts. Il y a même là-dessus une récupération de taxes que nous aurons. Donc, au niveau au net, le montant annoncé de 28 millions va être respecté probablement ou autour de ça. Là. Ça va être vraiment autour de ça. C'est sûr qu'au brut, si on veut, ça monte, les coûts sont assez importants, je l'accorde. Mais maintenant, c'est un projet qui est attendu depuis 20 ans, on le sait. Je pense que tout le milieu du soccer et tout le milieu du sport montréalais attendent avec... impatience, c'est le moins qu'on peut se dire, cet équipement-là. Là, maintenant, on est à l'étape du financement. Et je ne crois pas, à ma connaissance, après avoir investigué le dossier à gauche, à droite, et au nord et au sud, qu'il y aura des coûts supplémentaires. En tout cas, ce n'est pas ce qui est prévu. Le dossier a été repassé au niveau du comité de monitoring. J'ai même pris soin moi-même d'aller le présenter avec les équipes. Alors, on pense qu'avec ce qui va se faire en phase 2, qui est le terrain extérieur, l'aménagement, etc., que là, on devrait avoir les coûts globaux qui vont être financés par le règlement d'emprunt, comme pour tous les équipements que nous avons à Montréal. Je m'engage à fournir une ventilation telle que demandée, parce que ça, je pense que c'est de notoriété publique et que tous les conseillers ont le droit d'avoir ça.
Bravo. Merci, M. Deschamps. Adopté.
Merci, Madame la Présidente. Donc, je propose la réunion et l'adoption des points 42.05 en plomb, 0.06 à 42.07, appuyé de Laurent Blanchard. 42.06, règlement autorisant un emprunt de 20 millions de $ pour le remplacement de véhicules et leurs équipements. 42.07, règlement autorisant la démolition de l'église Notre-Dame de la Paix ainsi que la construction et l'occupation d'une ressource intermédiaire.
Monsieur Gadoury.
Sur 42.07, Madame la Présidente, il resterait quelques questions sur la multitude d'avis défavorables. En fait, sur d'un plan plutôt micro, là, donc dans le local, je sais que la fabrique a décidé de choisir de sauver une des trois églises, mais la fabrique n'a jamais demandé que l'église soit démolie. On s'entend, tu sais, c'est pas un souhait de la communauté que de démolir l'église. Le souhait de la communauté, c'est de garder une église vivante puis une autre. C'est, je veux dire, le souhait de la communauté, c'est qu'il y ait une communauté qui vive autour d'une église, là, renforcer les forces vives. Je comprends que la communauté souhaite pas avoir trois églises vides, hein. Donc, à ce titre-là, on n'a jamais dit la fabrique nous a dit, en fait, oui, on veut vendre deux églises pour en sauver une, mais elle nous a pas dit de démolir les deux églises. Vous voyez, la nuance, elle existe là. En fait, c'est pas non plus, les questions qui subsistent sont pas non plus quant aux fonctions de l'édifice qu'on va y mettre, le projet social, le besoin d'une résidence intermédiaire de lits, en fait, au final. Non plus, là n'est pas la question de s'opposer à ce besoin. En fait, c'est plus dans le sens du comité Jacques Vigée, c'est que à la pièce, on est en train de faire un travail qu'on s'était dit qu'on ferait pour toutes les églises de la ville, hein, ce qu'on peut encore appeler la ville aux 100 clochers. Mais ici, dans un cas particulier, sans avoir encore une fois cette notion d'ensemble, on permet en fait qu'il y ait tout le symbolisme du lieu, hein, toute l'occupation de ce lieu qui naissait du point focal d'une communauté. Quant à ces réunions, à ces discussions, ça reste un bien de nature communautaire, si je puis dire. Mais tous ces rappels au passé du site sont disparus. Il aurait été possible. Puis là, on ne parle pas de volumétrie de la construction, où il aurait été possible de garder un rappel au clocher, disons. Il aurait pu être possible de garder un rappel à l'emprise cruciforme de l'Église au sol par le nouveau bâtiment. Mm-hmm. Il y aurait eu plusieurs possibilités de faire un rappel historique, en fait, aux fonctions qui étaient présentes sur le site. Et c'est plutôt par rapport à ça qui étaient nos questionnements au dernier conseil. C'est sûr que préférablement, comme ville, on aurait un plan pour tous les lieux de culte. Hein? C'est ce qui était au départ, il y a environ une décennie, ce qui est le travail qui avait été tenté. Mais aujourd'hui, c'est pas devant une telle planification qu'on prend une décision. Hein? On la prend à la pièce. Et voyez tout le malaise là, qui est partagé par Projet Montréal avec les gens qui ont pu écrire ces avis défavorables-là. Il y a ce point-là macro, dans le sens où si on avait une vision d'ensemble pour la ville, il serait facile après de prioriser. Puis si on avait cette vision d'ensemble, il serait clairement inscrit qu'il faut reprendre des éléments architecturaux quand on redéploie un site. Donc, en terminant, Madame la Présidente, le projet est pour la communauté souhaitable, et c'est pas là-dessus que les avis défavorables tenaient, mais vraiment dans cette optique, il faudrait pour les prochaines fois, puisque là ça semble terminé, pas oublier cette notion de patrimoine, d'occupation de l'espace. Aujourd'hui, on redonne les emprises publiques et pourtant, on ne respecte pas l'esprit du lieu. En fait, on aurait pu faire un plus grand effort pour respecter l'esprit du lieu. J'ai hâte de vous entendre plus d'un point de vue micro, mais si quelqu'un pourrait me répondre d'un point de vue de la planification globale là, des lieux de culte. Je vous remercie, Madame la Présidente.
Merci, Monsieur Gaderie. Monsieur Tassé.
Merci, Madame la Présidente. Je dois vous dire que le collègue Gaderie a raison sur au moins un point. Je suis convaincu que le curé de la paroisse Notre-Dame de la Trinité ne s'est pas levé un matin avec l'idée « je vais démolir une de mes églises ». Je suis sûr qu'il n'a pas pensé à ça comme ça. Ceci dit, à Verdun, il n'y a qu'une seule église patrimoniale, c'est l'église Notre-Dame des Sept Douleurs, et ce serait absolument scandaleux de ne pas l'entretenir comme il faut. Ce serait encore pire de vouloir la démolir, et il n'en est absolument pas question. Où vous avez raison aussi, collègue Gaderie, c'est que ce serait effectivement intéressant d'avoir un plan de nos lieux de culte montréalais et qu'est-ce qui va en devenir, parce que dans le cas qui nous intéresse ici, l'église Notre-Dame de la Paix, elle est à toute fin pratique abandonnée depuis un peu plus de 3 ans. Et même si ça ne fait pas très longtemps, elle a déjà commencé à se détériorer. Et c'est à ce point malheureux que plusieurs des intervenants, dont les membres actifs de la fabrique prétendent que c'est heureux, la démolition de l'Église, pour recréer ce que les gens du comité Jacques Vigée et les gens du Conseil du patrimoine ont dit par rapport à cette Église-là, que ce qu'elle a de patrimonial, il est social. Il n'y a pas de patrimoine architectural. C'est le patrimoine important dans cette bâtisse-là, c'est un patrimoine social. Et le projet qui est avancé maintenant, la ressource intermédiaire, veut recréer ce patrimoine social, veut redonner à la communauté ce que la communauté a donné à son Église et vice-versa. Alors, les gens de la communauté vont pouvoir profiter de la ressource intermédiaire, vont pouvoir en profiter de plusieurs façons. D'abord, en fait de éléments architecturaux. Vous n'avez peut-être pas noté, mais dans le dossier, le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement s'est posé à peu près les mêmes questions que vous venez de poser. Et ce sont de bonnes questions. Il y aura maintien de pierres en façade. Les pierres de l'église seront récupérées et vont contribuer à rappeler l'église qu'il y a sur place au niveau de la façade avant. Il y aura aussi un rappel du clocher. Ça ne sera pas le clocher tel qu'on le connaît, on ne se fait pas d'illusions, on ne se fait pas d'histoire, mais il y aura un rappel de clocher pour que les gens se souviennent qu'il y a déjà eu une église à cet endroit-là. Et le rappel le plus important va venir dans la chapelle. Chapelle qui sera non seulement disponible pour les résidents de la ressource, mais qui sera aussi disponible pour les gens de la communauté. La chapelle sera ouverte à la population de façon générale et elle sera construite en récupérant les éléments de l'Église. Encore là, on ne se fait pas d'histoire. Probablement qu'il n'y aura pas 100% de la construction de la chapelle qui va venir de l'Église, mais il y en aura une majorité, il y en aura un très grand pourcentage qui sera récupéré de l'Église. En plus des articles sacrés, mais évidemment, on parle de vitraux, on parle des bancs, et ainsi de suite. Alors, il est là notre rappel social, il est là notre minimum, et j'en conviens, de rappel architectural. Mais pour nous, il s'agit d'un projet qui est essentiel pour cette communauté qui vieillit et qui va se retrouver pour une partie de la population dans le même coin où les gens se sont fait baptiser, où se sont mariés, où ils ont fait la communion de leurs enfants. Merci, Madame la Présidente.
Merci, M. Tassé. Adopté? Dissidence? 40-01. C'est adopté? Avec une dissidence de M. Norris. OK. Bon, Mme Lelida.
Oui, merci, Mme la Présidente. Donc, je propose la réunion et l'adoption des points 44.01 à 44.03. 44.01, qui est le dépôt du rapport de consultation publique et d'adoption concernant la session de fin d'établissement de maintien d'amélioration de parc dans Rosemont-Petite-Patrie. 44.02, qui est le dépôt du rapport de consultation publique et adoption sans changement du règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. 44.03, l'adoption sans changement du règlement intitulé règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal pour retirer l'église Notre-Dame-de-la-Paix de la liste des bâtiments de valeur exceptionnelle hors secteur.
Adopté avec dissidence de M. Norris sur le 4403.
Merci, Madame la Présidente. Donc, je propose la réunion et l'adoption. En fait, non, je vais y aller séparément pour 46.01. J'en propose l'adoption et appuyer, je vois le maire Luc Ferrandez n'est pas là, mais dans l'arrondissement de Plateau-Mont-Royal, la place du Coteau-Saint-Louis, je ne sais pas si c'est dans quel district pour pouvoir le... En fait, je vais donc demander que ça soit appuyé par Alex Norris, nommer la place du Coteau-Saint-Louis dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 46.02, donc je propose l'adoption de renommer la piscine Pierre-Lorange, la piscine Hochelaga dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, appuyé de Laurent Blanchard.
Merci. Adopté.
Pour ce qui est des nominations, désignations, donc à 51.01, je propose l'adoption de nomination à la Commission des services électriques de Montréal.
Je peux
pas si on les a sous les yeux, les nominations. Ça a déjà été distribué, donc ça va. Donc, j'en propose adoption appuyée de Laurent Blanchard. Adopté.
Adopté.
51.02, donc proposition de renouveler d'un mandat au Conseil jeunesse de Montréal, appuyée par Émilie Tullier.
Madame Tullier?
Oui, merci Madame la Présidente. Alors, c'était pour informer mes collègues que nous renouvelons le mandat du président actuel du Conseil jeunesse de Montréal, M. Michael Wiseman. Merci.
Bravo. Adopté. Madame Léda?
51.03. Donc, je vais laisser M. Blanchard, pour ce qui est de la désignation à la présidence du comité exécutif, le proposer.
M. Blanchard?
Alors, je propose donc la candidature de Mme Josée Duplessis à titre de présidente du comité exécutif. Appuyée par Mme Caroline Bourgeois.
Adopté. Félicitations. Monsieur Dessouza.
Merci, Mme la présidente. Je ne vais pas arrêter la partie. Je supporte Mme Duplessis, puis j'espère tout le succès dans ses fonctions. Mais je veux juste revenir sur deux.
Non, ça a été adopté.
Non, je vais soulever, madame, vous n'avez pas gardé ici. Je vais soulever
j'ai
mon...
J'ai pas vu votre nom.
Oui.
OK, on va terminer en paix et harmonie. Monsieur Duplessis.
Merci, Madame la Présidente. Comme je dis, je souhaite Mme Duplessis toute la chance. Je pense qu'elle est une bonne candidate. Et puis, je pense que, avec la durée du temps, elle va bien faire ses travaux. Mais mon commentaire était juste venir sur deux points. Et ça n'a rien à voir avec sa candidature, mais plus la question soulevée par ma collègue Sanson sur la question d'indépendance. Je pense que c'est important de réaliser que quand nous avons embarqué dans ça le mois de novembre, il y avait une volonté de s'assurer que les gens se présentent et puis les gens qui sont présentés pour les postes du maire et président du comité exécutif sont indépendants. Ça, c'est le suivi. Si on parle de la coalition, si on parle de la suivi logique des choses, si on va de suite logique des choses, c'était toujours été compris que le poste et les deux postes étaient des postes indépendants. Et en même temps, je peux juste me dire que j'ai eu des conversations qui, même en tant que candidat pour le poste du mairie, où j'étais demandé si, effectivement, je serais indépendant. Pas juste indépendant en tant que tel, mais indépendant durant toute la période électorale. Et même si je présentais en tant que candidat dans mon arrondissement, que je serais prête à être un candidat indépendant. Donc, ça, c'est la demande qui a été me posée, puis pour laquelle j'ai accepté quand j'avais placé ma candidature devant vous autres mardi passé. Donc, c'est effectivement, ça, c'est l'intention de s'assurer que les gens qui s'occupent le poste, soit du maire ou le poste du président du comité exécutif, sont indépendants jusqu'à la point que, je ne parle pas de 18 septembre, Madame la Présidente, je parle pour les postes en question jusqu'à le 3 novembre et présenté comme tant de candidats jusqu'à le 3 novembre, indépendant. L'objectif était toujours que le poste du maire ou le président du comité exécutif soit pas utilisé pour des fins partisans, pour les fins personnelles ou pour les fins d'inventer, donner avantage à un parti. Et en conséquence, non seulement la réponse de M. Blanchard m'a surpris quand il a dit le 18 septembre, oui, c'est le début de période électorale, mais vous êtes en poste comme maire jusqu'à le 3 novembre et je pense que dans les deux cas, je suggère ardemment à mes collègues, dont M. Blanchard et Mme Duplessis, non seulement dans le cas de Mme Duplessis, de considérer démissionner de son parti jusqu'à le 3 novembre, mais deuxièmement, que les deux assument leurs responsabilités en tant qu'indépendants jusqu'à l'élection du 3. Et par la suite, ils sont libres d'assumer toute fonction qu'ils veulent, soit des fonctions partisans. Deuxième point, Madame la Présidente, c'est la suivante. Quand je suis déposé ma candidature, et puis je vais donner un signal qu'on ne devrait pas faire un cumul des postes. Et même jusqu'à la dernière minute, il y avait un cumul de postes, jusqu'à la temps que, à la fin, l'annonce par M. Blanchard a été faite qu'il va donner la poste à Mme Duplessis après le vote. Là, il y a une raison pourquoi j'ai voulu qu'il y avait deux postes encore pour garder la bonne gouvernance et d'avoir des check and balance, OK? La gouvernance où un peut surveiller l'autre. et je constate que nonobstant que cette notion a été suivie d'avoir deux postes, dont et M. Blanchard avait fait ça, mais dans la fonctionnalité de ces postes, la poste de présidente de comité exécutif était complètement éviscérée, complètement évacuée. La personne qui est la présidente du comité exécutif ou la présidente du comité exécutif était toujours été responsable de finances, l'administration, pour être capable d'être le contrepoids au maire de Montréal. Et ça, c'est la raison qui a été faite depuis le temps d'un Jean Drapeau et continue. Donc, aujourd'hui, je trouve que la mauvaise pratique qui a été commencée avec M. Applebaum d'assumer la responsabilité de finances continue avec le maire élu, M. Blanchard. Je comprends qu'il retienne finances, il retienne la question juridique et puis aussi ressources humaines, possiblement délégué à mon ami qui n'est pas ici, Marvin Rotrand, qui va s'occuper de ressources humaines. Mais deuxièmement, il avait aussi délégué d'autres tâches à des personnes pour lesquelles j'ai une grande estime. Aucun problème avec déléguer ça aux autres, mais ça donne la présidente du comité exécutif aucune connaissance de la finance et l'administration de notre ville. Et c'est ça qui est là. La poste était évacuée. The position is completely eviscerated, powerless, figurehead. And I'm saying that I like my colleague Duplessis, but I want her to work. I want her to assume her responsibility. I want her to have the knowledge and the control and the power of the dossiers to stand up and hold the mayor accountable. And I think that's important. And by eviscerating the powers of the president of the executive committee to the point that she's a figurehead, and I apologize in that sense, she does do other good stuff, and I appreciate that, but she doesn't have the powers. Je pense vraiment que le maire doit repenser son comité exécutif pour s'assurer qu'il donne en fonctionnalité, en fonction des rôles et des responsabilités qui sont dus. Et je demande à M. le maire de reconsidérer cette partie, simplement non seulement pour la bonne gouvernance, mais deuxièmement pour s'assurer qu'on tente vers les rôles historiques du président ou présidente du comité exécutif et de s'assurer qu'on peut avoir l'équilibre nécessaire dans les positions exécutives. Merci, Madame la Présidente.
Merci, Monsieur de Souza. Monsieur le...
Question de privilège, tout simplement. La motion a été votée sous prétexte que M. de Souza avait levé la main. Son nom n'était pas inscrit au tableau. Il a eu droit à une longue tirade.
Donc, c'est ma faute, je n'ai pas vu.
Il était? OK. Alors, le problème, c'est que cette façon de faire-là, là, puis j'en ferai pas un plat, je vais me rasseoir, mais ça fait que tout le monde a été pris par surprise. Moi, si j'avais vu M. de Souza se lever faire sa longue tirade, on se comprend, j'aurais pris mon tour de parole et j'aurais fait une réplique à M. de Souza. Là, il peut parler tout seul. Pendant 5 minutes, personne ne va le répliquer parce que le vote a été passé.
Non, non, non.
Ah, on peut intervenir? Bon.
Non. OK.
Étant donné, bon, M. de Souza a pu faire son intervention, moi, je le prends qu'à ce moment-là, le tableau est ouvert. Et s'il y a d'autres interventions, je pense que ça peut être un compromis. Parce que de cette façon-là, M. de Souza fait son intervention, vous avez le laissé faire. Donc, le tableau est ouvert pour les autres interventions. Sinon, on crée vraiment à ce moment-là une injustice.
C'est tout un...
Non, non. Alors, je voudrais m'exprimer sur le point.
S'il vous plaît, Madame Lefebvre, asseyez-vous. Je vais... comme je n'ai pas vu le nom de M. de Souza, j'ai trop vite dit que c'était adopté. Comme son nom était là, j'ai reconnu. C'est tout à fait légitime que tous les autres qui avaient quelque chose à dire puissent le dire. Donc, on va réouvrir le débat. Et c'est une question de s'exprimer. On est dans une enceinte démocratique. Je pense que les opinions des autres sont valables. Et c'est vrai que maintenant que le débat est lancé, j'accepte tous les intervenants.
Merci, Madame la Présidente. En fait, sur le point, pour faire rapide, pour ne pas perdre trop de temps, mais quand même, les propos de mon collègue suscitent quand même une certaine réaction. D'une part, sur la question de l'indépendance, il est clair que pour nous, à Vision Montréal, la Notre vision des choses était que Mme Duplessis, à titre de présidente de l'exécutif, aurait dû, même si ce n'était pas une exigence, mais aurait dû et devrait siéger à titre d'indépendante. Ceci étant dit, nous avons entendu son propos. Le deuxième, c'est sur ce que M. de Souza vient de mentionner, à savoir le rôle historique du président de l'exécutif. Il me semble que dans le contexte de Montréal, de tout ce qu'on a vécu de scandales, de corruption, le rôle historique du président du comité exécutif ne devrait pas s'avérer quelque chose d'immuable. On a vu que ça ne fonctionnait pas. Pour preuve, M. Zampino, qui a été président de l'exécutif pour ne nommer que celui-ci, qui a été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation, on peut présumer que ce mode de fonctionnement n'était pas nécessairement le meilleur. Donc, de remettre en question la qualité ou la pertinence de la personne au-delà de cette personne-ci, mais pour le futur, je pense qu'il faut être empreint d'ouverture et se dire que différents profils de personnes et différentes fonctions associées au président de l'exécutif peuvent être mises en œuvre pour le bien fondé de la démocratie et du fonctionnement de la Ville de Montréal.
Bravo.
Monsieur Lemoche.
Il y a des gens qui, Madame la Présidente, il y a des gens qui devraient aller chercher un dictionnaire parce qu'ils ne savent pas ce que collusion veut dire, visiblement. Alors, je voudrais revenir, Madame la Présidente, sur la notion d'indépendance qui est invoquée par certaines personnes à ma droite ici dans leur bouche, est une notion un peu élastique. On va se dire les choses honnêtement, on est à quelques mois d'une campagne électorale, les candidats à la mairie sont tous annoncés, les équipes sont en train de se constituer, sont presque déjà toutes constituées, et à part quelques personnes qui ne se représentent pas pour un mandat, pour un autre mandat le 4 novembre 2013, il y a personne d'indépendant dans cette salle. On peut siéger comme indépendant, ça ne veut pas dire qu'on l'est, je veux dire... Madame Annie Sanson siège comme indépendante en ce moment. Elle est à côté de M. Coderre sur toutes les photos, sur toutes les sorties de presse. C'est très correct. Je dis pas que c'est pas correct. Je voudrais qu'on soit très clair là-dessus. C'est normal qu'il y ait des regroupements électoraux. C'est normal qu'on s'associe pour arriver à une vision du pouvoir et qui devrait gouverner la ville. Il y a des gens qui se sont associés à la candidature de Marcel Côté. Je trouve ça tout à fait correct. Ils ont le droit, c'est leur choix. Il y a des gens qui pensent que Denis Coderre ferait le meilleur maire. C'est leur choix, ils ont le droit. Et nous, on pense que Richard Bergeron ferait le meilleur maire pour Montréal. Et c'est notre droit, c'est tout à fait correct. Ceci étant dit, je vois une tendance dans les médias, s'il vous plaît, ces temps-ci, de jouer sur des questions de sémantique, de dire « nous, on n'est pas un parti, on est une coalition. Nous, on n'est pas un parti, on est une équipe. Nous, on est des indépendants dans une équipe. » Et c'est correct. Laissons ça aux médias. Puis ça fait partie du jeu politique que de jouer un peu là-dessus puis d'essayer de surfer sur des vagues. Je trouve ça bien correct ici. Mais qu'on laisse ça à l'extérieur de la salle, dans les médias. Dans la salle ici, là, à peu près tout le monde est affilié à un regroupement politique, que ce soit avec l'équipe de M. Marcel Côté dans la coalition, que ce soit avec Denis Coderre dans l'équipe Coderre pour Montréal, même en siégeant comme indépendant, personne n'est dupe, ou que ce soit Projet Montréal pour la candidature de Richard Bergeron. Et l'honnêteté la plus élémentaire, ça serait de reconnaître ça. Il n'y a personne qui n'a pas... en ce moment, José Duplessis...
S'il vous plaît.
En ce moment, Mme José Duplessis ne siège plus au caucus. Je ne l'ai pas vue depuis l'élection du maire par intérim, Laurent Blanchard. Elle n'a pris aucun engagement partisan, elle n'a fait aucune activité partisane. C'est une indépendance qui, à mon avis, vaut plus que de siéger comme indépendant, mais d'être présent dans plein de photo-op à côté d'un candidat à la mairie. Alors, je voudrais qu'on présume de sa bonne foi ici. Je voudrais qu'on arrête, là, qu'on n'entre pas dans un procès d'intention, parce que sinon, on peut passer les prochains mois à faire un débat sémantique sur est-ce qu'une coalition est plus pure qu'une équipe, qu'un parti, puis là, on va se jeter, on va faire du mudslinging. Ça sera pas beau, ça sera pas constructif. Je veux dire, on a toutes nos... Comme je vous dis, laissons ça aux médias, de jouer ça. Parce que des mots, on peut en trouver, là, à la limite, on pourrait décider de se définir aussi comme une affiliation, une alliance, une confrérie, une congrégation, une entente, une guilde, un consortium, une union, un cartel, un bloc. C'est tous des noms qui veulent dire la même chose, des regroupements politiques en vue de prendre le pouvoir. Et c'est légitime, mais faisons pas que personne ici joue à l'indépendant quand ils ne le sont pas réellement. Moi, je respecte les gens qui se présentent sous toutes les bannières et qui appuient toutes les candidatures à la mairie, mais c'est dans ce climat-là et dans ce climat-là seulement que le débat va rester serein ici jusqu'au 3 novembre. Merci, Madame la Présidente.
Merci, Monsieur Limoges. Monsieur Benjamin.
Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je suis étonné d'entendre mon collègue Limoges parler de procès d'intention, de présomption, pendant que j'ai, au cours des 4 dernières années, j'ai entendu, mais à moult reprises, venant de Projet Montréal, les procès d'intention, les présomptions envers des collègues élus ici à ce conseil municipal. Je pense que quand on parle des principes, les principes sont des principes où ils ne le sont pas, tout simplement. Et je crois qu'un des principes qu'on s'était donné ici, en cette enceinte, avec cette idée de la coalition, c'est l'idée, c'est le principe suivant. Le maire est indépendant, le président ou du comité exécutif est indépendant. Et c'est pour des questions de perception. Et aujourd'hui, si je comprends bien, soudainement, c'est-à-dire cette perception, ce principe-là ne tient plus, puisque la personne qui vient d'être nommée à la présidence du comité exécutif est membre de Projet Montréal. Ce qu'on demande, ce que j'aurais souhaité venant de la part du maire, qui lui, à son tour, lorsqu'il a été nommé président du comité exécutif, a décidé, à la demande du maire précédent, quitter son parti pour devenir indépendant, je me serais attendu à la même chose de la part de notre nouveau maire, Monsieur Blanchard, qu'il fasse cette même demande, qu'il ait cette même exigence, ce principe aussi, ce principe par rapport à la perception que la présidente du comité exécutif doit être une indépendante. Donc je trouve que vraiment, c'est totalement désastreux.
Merci, Monsieur Benjamin. Un droit de réplique?
Oui, mais écoutez, j'aurais voulu ne pas faire de droit de réplique, mais ce point avait été abordé dans l'harmonie. Il me semble que c'est quelque peu emporté par la suite. Alors, je veux juste rappeler que l'élection a eu lieu la semaine dernière à la mairie, que le résultat a été celui que l'on connaît, et que, de ce fait, la liberté du maire de nommer les membres du comité exécutif, les conseillers associés, la présidence du comité exécutif, lui appartient, ainsi que les mandats. Disons que j'ai malheureusement senti, on était parti dans l'harmonie, je sens un peu d'amertume, mais je préférerais que pour la suite des choses, on se tente davantage de rameaux d'olivier que les raisins de la colère, Madame la Présidente. Merci.
Merci, Monsieur le maire. Sur ça, je vais dire, une fois pour toutes, adopté. Félicitations, Madame la Présidente. Madame Lévidaire.
Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, 51.04, je vais céder la parole pour la désignation du président du Conseil à M. Blanchard.
Alors, toujours dans cette perspective harmonieuse qui est la nôtre aujourd'hui, je suis heureux de proposer la nomination de M. Arouch Tillian, qui m'a envoyé une lettre la semaine dernière. Et je pense que cette lettre mérite d'être entendu par mes collègues du conseil municipal. C'est une lettre que j'ai trouvée très touchante. C'est pour ça que j'aimerais la partager avec vous. Alors, le jeudi 20 juin 2013, j'annonçais ma démission à titre de président du conseil municipal de Montréal, une fonction que j'ai occupée pour 2 ans, afin de me porter candidat à l'élection au poste de maire par intérim de la ville de Montréal à l'élection du 25 juin. À l'issue d'un vote extrêmement serré qui s'est soldé par un résultat positif en votre faveur, vous avez publiquement exprimé votre volonté de recommander ma nomination au conseil municipal au poste de président du conseil. Après une brève réflexion, je réitère ma détermination d'être présent pour Montréal et accepte votre proposition de recommander au conseil ma nomination à la prochaine assemblée extraordinaire afin de maintenir la stabilité et ce, tel que je l'ai fait depuis les 2 dernières années. Et il titrait sa lettre « Je réponds, présent pour Montréal ». Alors, merci, M. Cilliard.
Adopté.
Appuyé par Mme Caroline Bourgeois.
OK. Adopté. Donc, vous allez maintenant venir... Oh, M. Dubois. Excusez-moi.
Merci, Mme la Présidente.
Moi, je fais un autre correctif parce que j'ai dit adopté et je n'ai pas vu votre nom.
Ce n'est pas du tout sur le sujet. Si vous me permettez 30 secondes, c'est juste une mise à jour par rapport aux questions d'Hydro-Québec de ce matin. Comme j'ai eu de l'information supplémentaire suite aux questions de Mme Harel, je voulais simplement, je pense que des élus bien informés sont toujours des élus plus efficaces. Alors, simplement vous informer que suite à ce qui s'est passé hier, d'abord, il s'agissait, comme vous le savez, de la chaleur extrême dans la région du nord du Québec, qui était la chaleur la plus intense depuis 40 ans. Et le système de transport des lignes d'Hydro-Québec a un système de détection. Au moment où la chaleur est trop élevée, le système s'interrompt. Deux choses se sont passées depuis hier. Hydro-Québec a réorganisé. Vous savez qu'Hydro-Québec, c'est une grille de distribution. Donc, il y a plusieurs systèmes de lignes qui se rendent à Montréal. Donc, on a réorganisé la grille de distribution pour éviter la zone à risque et donc pour essayer potentiellement d'éviter une autre panne. Pour le moment, on se croise les doigts. Et la deuxième question, suite à la question de Mme Harel, la sécurité civile est informée dans les 5 minutes d'un événement d'Hydro-Québec, ce qui a été le cas hier. Et donc, si ça devait se reproduire, la mise en place du CCMU, qui est le Centre de coordination des mesures d'urgence, normalement s'installe en l'espace de 30 minutes, le cas échéant. Merci, Mme la Présidente.
Merci, M. Dubois. Et maintenant, je vais inviter le Président de venir terminer ce conseil municipal avec les deux motions qui nous restent. Et je vous remercie pour votre patience et votre collaboration pour... Ça fut des moments historiques.
Merci. Donc, je reviens au moment que j'adorais le plus, donc l'émotion des conseillers. Et on va commencer avec 65-01. Donc, c'est une motion de la majorité pour étendre les services d'avis à la communauté au cellulaire. Donc, c'était présenté par Mme Harel. Mme Harel?
Merci, Monsieur le Président. Comme je suis la première à intervenir après votre nomination, je veux que vous sachiez combien souvent je vous ai dit que c'est avec une autorité toute naturelle que vous exerciez cette fonction. Et cette autorité naturelle vous est reconnue, je pense, par tous les membres de ce conseil. Alors, il s'agit de la question là, qui est relative aux communications lors d'événements qui exigent d'avoir cette communication avec les citoyens. En l'occurrence, ce qui nous amène à la déposer, c'est finalement ce qui s'est produit lors de la baisse du niveau du réservoir de l'usine de filtration Atwater et de la privation là, d'eau potable. En fait, c'était pas une privation, c'était la nécessité de faire bouillir l'eau pour qu'elle devienne potable, en fait, avec assurance, pour 1 300 000 Montréalais. Et donc, il nous est apparu que les messages automatiques pouvaient être transmis sur les téléphones filaires, mais ne l'étaient pas sur les téléphones cellulaires. Bon, je ne reviens pas sur toutes les considérations qui ont déjà été ici même soumises à l'effet qu'il y avait eu un délai parfois trop long avant que l'alerte générale soit donnée. Et donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil mandate le Centre de sécurité civile de travailler en collaboration avec le Comité national et le CRTC afin qu'il soit possible pour la Ville de Montréal d'envoyer des messages d'alerte directement au téléphone cellulaire sans inscription préalable, puisque nous considérions auparavant que c'était nécessaire que chaque détenteur d'un téléphone cellulaire s'inscrivent personnellement pour recevoir de telles communications. Et il est apparu qu'en vertu de l'article 41 de la loi sur les télécommunications, le CRTC peut réglementer l'utilisation en fait, en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées. En l'occurrence, je pense que la sécurité civile pourrait tout à fait être légitimée de demander au CRTC, d'examiner avec le CRTC la possibilité que de telles télécommunications non sollicitées puissent être finalement offertes. Moi, je pense que cette motion a été déposée il y a déjà deux séances. Il y a eu du travail qui a été fait. J'en remercie M. Dubois et ceux et celles qui ont participé. Mais finalement, cela va nous permettre de poser un geste et faire un pas de plus vers une protection, en fait, d'événements, en fait, non sollicités, mais d'événements qui exigent qu'on puisse communiquer avec la population.
Merci beaucoup, Madame la Chef, la majorité. Conseiller Dubois.
Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi également de joindre ma voix pour vous féliciter de votre retour dans cette chaise. Vous savez que vous êtes très, très précieux à cette Assemblée et j'en suis fort heureux que vous ayez accepté. Je veux simplement dire que, effectivement, nous avons travaillé ensemble avec Mme Harel sur cette motion qui avait déjà été présentée il y a deux semaines. Et donc, il me fait plaisir de vous dire qu'en tant que responsable du dossier de la sécurité civile par le biais du service d'incendie de Montréal, je demande à tous mes collègues d'appuyer cette motion en faveur de ce qui a été présenté. Merci, M. le Président.
Merci. Donc, je pense que on peut être d'accord ou on veut continuer le débat. C'est correct. Donc, la motion est adoptée unanimement. Félicitations. Cette fois-ci, 65-02, c'est une motion pour une consultation publique sur l'avenir du domaine institutionnel patrimonial montréalais qui va être présentée, encore une fois, par la chef de la majorité, Mme Harel.
Alors, Monsieur le Président, vous vous rappelez peut-être ou pas, mais elle a été déposée au précédent conseil de ville lors de la séance de juin. Et ça faisait suite à l'Assemblée générale annuelle d'Héritage Montréal, à l'occasion de laquelle l'Assemblée, unanimement les membres d'Héritage Montréal, demandaient la tenue d'une telle consultation publique. J'ai eu l'occasion hier après-midi de communiquer avec l'OCPM pour vérifier si leur échéancier de l'automne allait permettre une telle consultation compte tenu de l'annonce du comité interministériel où siègent à la fois le ministère de la Culture, de la Santé et de même que le ministère de la Métropole, que le secrétariat de la Métropole. Et on m'a dit que la Ville de Montréal y serait représentée, mais ce comité interministériel, évidemment, pour l'alimenter, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de faire appel aux Montréalais eux-mêmes en regard des recommandations qui peuvent être transmises à Québec. Et je pense que les Montréalais vont eux aussi, comme vous l'avez fait, M. le Président, se déclarer présents parce que la montagne, et en fait le Mont-Royal, est certainement la signature la plus emblématique de la ville. Alors, la proposition, c'est de faire en sorte que l'OCPM puisse préparer cette consultation qui définitivement ne peut pas avoir lieu pendant la campagne électorale, bien évidemment, mais qui pourrait, m'a-t-on dit à l'OCPM, vérification faite auprès du secrétaire général, qui pourrait donc être préparée de manière telle qu'elle puisse se dérouler immédiatement, immédiatement après le 3 novembre prochain. Et auquel cas, ça pourrait alimenter, servir, en fait, de recommandations transmises ici même au conseil qui suivra l'élection. Et peut-être pas au conseil qui suivra, mais à un des conseils subséquents. Mais ça pourrait, en fait, alimenter les positions que le conseil et la Ville de Montréal prendront à l'égard de ce que l'on sait être des grands, grands défis sur le territoire du Mont-Royal, à savoir, évidemment, la vente annoncée de ces grandes institutions que sont à la fois l'Hôtel-Dieu, premier hôpital en Amérique du Nord, et l'hôpital de Jeanne-Mance, et puis le Royal Vic. Mais le Royal Vic, il y a déjà des bonnes nouvelles hein, en ce que McGill a déjà annoncé son intérêt de s'en porter acquéreur. Mais évidemment, je pense que la proposition de motion, c'est à l'effet de tenir une consultation sur l'avenir du domaine institutionnel, puisque l'on sait que toutes ces grandes institutions religieuses qui, en fait, ont eu, on pourrait dire, leur siège social là, sur le Mont-Royal, ces grandes institutions religieuses qui quittent les unes après les autres. Je pense qu'il faut avoir une vue d'ensemble de ce que, en fait, doit devenir le patrimoine montréalais en matière institutionnelle.
Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Conseiller Tassé.
Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, j'aurais été tenté de demander à la chef de l'opposition de reporter la chef de la majorité. Mon Dieu, que ça se complique. Mais j'aurais été porté à demander à Mme Harel de reporter cette motion parce que j'aurais voulu voir vraiment la composition du comité de travail, du comité conjoint de travail suggéré par M. Coteau. Bon, évidemment, il nous parle du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Sciences et de la Technologie, du secrétariat de la Région de Montréal et de la Ville de Montréal. Mais suite à l'intervention de Mme Harel maintenant et suite à ce que j'ai entendu entre les branches entre ce matin et maintenant, je suis plutôt porté à appuyer la résolution parce que je comprends que nous allons attendre quelques mois ou à tout le moins quelques semaines avant de spécifier le mandat à donner à l'Office. Parce que je pense qu'on peut se fier à ce que le gouvernement du Québec va faire dans ce dossier pour peut-être encadrer n'est pas le bon mot, mais donner des spécificités précises à l'office de consultation publique de Montréal afin d'intégrer effectivement le public, les Montréalais, les Montréalaises dans ce dossier pour des bâtiments qui nous touchent tous. On a parlé de patrimoine tantôt quand on a parlé de l'église Notre-Dame de la Paix, mais je pense qu'ici on parle réellement de bâtiments patrimoniaux. Alors, ceci dit, je vais appuyer la motion de Mme Harel.
Merci. Chef de la majorité.
Bien, je vais terminer, M. le Président. Je vais remercier M. Tassé. Vous savez, vous êtes tout excusé là, de confondre les fonctions. On me dit qu'ici, on a changé, je pense, 16 fois de plan de banquette au cours des dernières semaines. Alors, c'est, je pense, inédit dans l'histoire de ce conseil. Puis, c'est pas fini, m'a-t-on dit. Alors, simplement, peut-être pour mentionner que le conseil de ville lui-même peut mandater l'OCPM, hein, à l'article 83 de la Charte. Alors, je pense que le comité exécutif devra y procéder certainement d'ici au plus tard le conseil de septembre. À défaut de quoi, je pense que le conseil pourra décider de le faire parce que il est bien sûr que ça ne peut pas avoir lieu pendant la campagne électorale, mais ce serait extrêmement utile quand on pense que déjà l'Agence de santé et de services sociaux de Montréal a autorisé la vente de l'Hôtel Dieu et la vente du Royal Vic. Alors, l'autorisation de vendre est déjà donnée. Il y a déjà des agents d'immeubles, alors qu'on ne sait même pas, finalement, quel sera l'avenir de ces institutions. Alors, on a vraiment intérêt, Montréal, à prendre les devants ou à prendre l'initiative. Je vous remercie.
Merci. Intervention de conseillère Duplessis.
Monsieur le Président, pardon, j'ai dû sortir... les gens étaient intéressés par nos inspections dans les restaurants. Moi, j'appuie cette motion d'envoyer un mandat, de préparer un mandat pour l'Office de consultation publique, mandat qui sera effectif après les élections, mais qui doit être, d'après moi, préparé maintenant. Et Soyez sans inquiétude, ce comité interministériel Montréal est appelé à y siéger. Alors, on va aussi être des discussions pour voir comment vont se dérouler les conversations entre les différents ministères et aussi avec la société civile. Je suis en contact avec M. Lisée, je lui ai parlé quelques fois aussi, donc cet enjeu que nous vivons tous là, des institutions qui se vident sur la montagne. À un moment donné, on avait peur que notre montagne soit envahie par les immeubles, par les constructions. Et les institutions se vident. Donc, il faut trouver ensemble, c'est tous ensemble, l'ensemble de la société qui sera mis à partie pour trouver des solutions pour habiter ces grands ensembles qui sont immenses et qui vont coûter extrêmement cher à rénover. Donc, effectivement, que la meilleure façon de consulter notre population, c'est avec notre Office de consultation publique de Montréal, mais il y a un travail préalable en comité de travail pour déposer des propositions sur lesquelles les citoyens pourront apporter leur avis et discuter. Alors, j'appuie cette motion.
Merci. Donc, la motion est adoptée unanimement. Ceci met fin, je pense, à notre ordre du jour. Donc, on va se revoir. Bon été, soyez prudents et on va se revoir au mois d'août. Merci.